Vous êtes sur RTL. RTL Matin
avec Yves Calvi.
7h43, très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez ce matin le maire de Grenoble, Éric Piolle.
Bonjour Éric Piolle.
Bonjour.
Et merci d'être sur RTL en direct de votre ville de Grenoble. Éric Piolle, c'est ce matin en Conseil des ministres qu'est présenté le projet de loi climat et résilience issu de la Convention citoyenne. Alors, rénovation énergétique, lutte contre les passoires thermiques, interdiction de la pub en faveur des énergies fossiles, interdiction des vols domestiques aériens s'il y a une liaison par train en 2h30, création d'un délit d'écocide en cas de pollution intentionnelle de l'eau ou de l'air, chèque alimentaire pour manger plus sainement. La Convention citoyenne réclamait d'aller plus loin. L'écologie, Éric Piolle, c'est tout ou rien?
L'écologie, c'est d'abord une façon de protéger nos modes de vie. Et je crois que c'est ça qui est important. Et c'est ça, en fait, que n'a pas compris le président de la République, alors que la Convention citoyenne climat proposait un cap collectif, qui permettrait à la France de redevenir pionnière. Et la France est la France quand elle se fédère derrière un projet pionnier. Donc c'est une grande occasion ratée.
Donc ce texte ne protège pas les citoyens français? C'est ce que vous dites?
Non, vraiment, c'est là le président de la République fait le choix de protéger ses amis, en fait, hein, les publicitaires, les géants de l'aviation, les géants américains, mais il ne protège pas nos modes de vie, ne protège pas ce qui fait les dépenses des ménages, hein, à savoir la mobilité, le logement, l'alimentation, et c'est le...
Il y a zéro avancée. Il y a vraiment zéro avancée.
En fait,
le chèque alimentaire, c'est zéro avancée.
Vu les enjeux, ces petites avancées, comme le disait Nicolas Hulot au moment de son départ, en fait, sont des reculs. Et c'est le Conseil économique et social et environnemental qui le dit. Hein. Donc c'est le CESE qui dit que ce projet de loi, je le cite, ne paraît pas en mesure de redresser la situation climatique et de prendre en compte les inégalités sociales. Les mesures apparaissent souvent limitées, différées ou soumises à des conditions telles que leur mise en œuvre à terme rapprochée est incertaine. Donc ça, c'est le Conseil économique et social et environnemental qui le dit. Ça veut dire que, en fait, le cap lui-même n'est pas assez ambitieux. Le gouvernement lui-même le dit, ça ne fixe qu'à 20% de réduction de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Et en plus, on ne se donne pas les moyens d'y aller. Donc finalement, ça va peser dans notre quotidien, mais sans créer un projet fédérateur et pionnier pour nous tous.
Mais alors, qu'est-ce qu'il faut? À quoi il faut renoncer? Il faut renoncer à l'avion? Il faut renoncer au téléphone portable? Tout ça, on dit c'est terminé, c'était avant, maintenant c'est fini?
Je crois que la question, justement, n'est pas de renoncer. Si on regarde notre avenir en se disant juste que c'est un avenir de restriction où on va perdre des pans de choses auxquelles on était attaché, à ce moment-là, notre avenir est très noir. En fait, nous avons un avenir qui est lié à l'essentiel, ce retour à l'essentiel, comment on protège nos modes de vie. Hein, et donc, on se dit qu'effectivement, quand
oui,
il y a une solution
quoi,
par train... Eh ben, c'est que quand il y a une solution en train en moins de 4 heures, eh ben en fait, on peut prendre le train plutôt que de prendre l'avion. On va passer du temps pour aller à l'aéroport, du temps à glander dans l'aéroport, du temps à attendre la sécurité, du temps, tout ce temps fractionné pour des émissions à effet de serre qui seront sur un Paris-Marseille, c'est 53 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre en avion qu'en train. Donc là, vraiment, il faut faire quelque chose. De même que c'est le Haut Conseil pour le climat qui disait qu'il aurait fallu faire un moratoire sur la 5G pour réfléchir à nos usages et qu'on peut encore en faire pour la deuxième vague des enchères sur la 5G. Donc tout ça.
Vous qui vivez
en fait,
à Grenoble, Éric Piolle, la 5G, vous savez qu'il y a des applications en médecine, il y a des applications pour l'industrie chez les start-upers. Donc c'est pas essentiel la 5G.
Ben en fait, toute cette question était la question des usages, parce qu'aujourd'hui dans la médecine, nous avons besoin de numérique, mais le numérique de la médecine aujourd'hui, il marche en fait par la fibre, hein, il ne marche pas par la 5G. Et aujourd'hui, nous dans les Alpes, voilà, nous sommes à Grenoble, le dérèglement climatique va deux fois plus vite qu'ailleurs. On a déjà franchi les 2 degrés ici, c'est ce que nous disait Météo France début janvier. On voit concrètement la montagne qui s'effondre par morceaux, hein, et donc peut-être que c'est ça qui nous sensibilise également de façon plus concrète. Mais en fait, on est tous sensibilisés à ça. J'étais il y a 15 jours en Bretagne, la ligne de côte avance, et ben, où on choisit de continuer à empirer et essayer de se dire qu'on va être plus fort que la mer, où en fait on s'adapte et on retrouve
donc,
dans nos modes de vie ce qu'il y a d'essentiel, ce à quoi on tient vraiment,
vous ne le dites
en disant
pas franchement,
que le reste...
Pourquoi vous ne le dites pas franchement? C'est pas un moratoire que vous demandez, c'est une interdiction. Enfin, en tout cas, vous dites non à la 5G.
Non, parce que la question, la 5G est symbolique dans le sens où, en fait, il faut nous faire réfléchir à nos usages numériques. Vous voyez, de même que si on regarde un autre domaine de la science et de la technologie où on a fait des progrès incroyables, dans le domaine de la bioéthique, nous avons choisi délibérément, nous pourrions aller vers faire des clones humains, nous saurions le faire, mais on se dit attention, d'un point de vue éthique, il ne faut pas le faire. Et en fait, dans le numérique, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que là, la tendance sur laquelle on est, c'est que ça va doubler nos émissions de gaz à effet de serre. C'est ça que dit le Haut Conseil pour le climat dans son rapport de fin décembre. En 5 ans, on prévoit de doubler ces émissions de gaz à effet de serre. Donc on se dit finalement, de quoi nous avons besoin et comment remplir nos besoins, satisfaire nos besoins avec des solutions qui sont bonnes pour le climat. Mais si elles sont bonnes pour le climat, en fait, elles sont bonnes pour nos vies quotidiennes. C'est ça que le gouvernement n'a pas encore compris. Hein. Ce qui est bon pour le climat aujourd'hui est bon pour nos fins de mois sur la mobilité, le logement, l'alimentation. Et c'est bon en fait pour notre vie à nous tout de suite là et puis la vie de nos enfants.
Quand on interdit la pub des énergies fossiles, on dit aux gens aussi vous n'avez plus le droit d'acheter ceci ou cela. Donc
oula, ben non, c'est pas ça qu'on dit. C'est que quand on dit la pub, c'est que d'arrêter la pub. Nous avons arrêté notre contrat avec Deco en 2014. En fait, tout le monde était content. Tout le monde, quels que soient les horizons politiques, il y avait un consensus pour dire que ce stimulus permanent.
Vous savez qu'il y a des entreprises qui vivent de la pub et pas seulement de la redevance.
Ah ben bien sûr.
Pas seulement de l'argent du contribuable, je veux dire.
Oui, mais je dis aussi que toutes ces entreprises sont, si on fixe un cap qui est clair, les acteurs économiques sont capables de s'adapter. Moi, j'ai été dans l'industrie, j'ai été cadre dirigeant dans l'industrie, j'ai travaillé dans l'industrie depuis 18 ans. Ce qu'il faut au monde économique, c'est un cap clair. Et une fois qu'il a un cap clair, à ce moment-là, qu'il connaît les règles sur 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, à ce moment-là, l'activité économique s'adapte. Quand on est dans le flou des petites mesures comme ça, avec toujours cette épée de Damoclès, parce qu'on sent bien qu'on prend pas les mesures, les choses à leur juste mesure, alors c'est ça qui crée l'incertitude, c'est ça qui crée du désordre économique. Et je crois que ce n'est bon pour personne. Ni pour aujourd'hui l'ensemble des Françaises et des Français, ni pour les acteurs économiques qui aujourd'hui portent des solutions aussi pour les questions du climat.
Je sais qu'à Grenoble, vous avez interdit la voiture en centre-ville. Moi, j'entends chez les écologistes, ma voiture demain, elle sera électrique, mon vélo demain sera électrique, ma chaudière demain, elle sera électrique. Où est-ce que l'on trouve l'électricité? On arrête les centrales nucléaires?
Alors, la question de l'énergie, en fait, se pose sur quelle sobriété énergétique, comment on réduit. Hein, c'est pour ça que l'isolation des logements est majeure. C'est pour ça que dans la mobilité, la question n'est pas de passer de tout électrique, mais se dire comment on peut être plus nombreux par véhicule. Hein, à Grenoble, sur les 100 000 véhicules qui arrivent depuis Lyon, là, c'est 1,04 passagers par voiture. C'est pour ça que nous avons négocié et obtenu avec le ministère la première voie de covoiturage sur autoroute. Parce qu'en fait, ce qui fait du sens, c'est évidemment de réfléchir à quelle motorisation, donc des véhicules moins lourds. Là aussi, le gouvernement recule. Hein. Le Conseil citoyen pour le climat proposait de mettre un malus à partir d'une tonne 4. Lui, il a remonté à une tonne 8. Ça va interdire 1% des véhicules, ça ne dit rien. D'une part, regarder les motorisations, le poids des véhicules, mais se dire aussi comment on peut être plus nombreux dans les véhicules. Moi, j'ai lâché ma voiture il y a 6 ans. J'ai pourtant 4 enfants. Je fais de la montagne, du camping. Vous m'auriez dit ça il y a 10 ans. Je vous aurais dit, mais vous êtes fou, je ne peux pas. Mmh. Et en pratique, en passant à l'autopartage, j'ai trouvé un mode de vie qui me convient, qui ne me freine pas dans mes élans, mes vacances, mes besoins impromptus.
Monsieur le maire.
Et qui pourtant réduit par deux ma facture, et bon pour la planète.
Monsieur le maire, il y a un sujet problématique à Grenoble, c'est l'insécurité. Alors c'est le même partout, vous me direz, des bandes rivales qui se disputent le marché de la drogue. Cette fusillade chez vous depuis l'été dernier, ce n'est pas nouveau, ça existait avant vous. Ça ne s'est pas calmé avec vous. Pourquoi ?
Oui, parce que effectivement, la France continue d'avoir cette logique qui est la plus répressive d'Europe envers le cannabis. Et en fait, on mobilise toutes nos actions, on envoie nos policiers dans des conditions très difficiles, écoper la mer avec une petite cuillère. Donc là, nous ne souhaitons, c'était la promesse d'ailleurs du président de la République Macron quand il était candidat.
Il y a eu un fait précis chez vous à cause des dealers. La crèche de l'Arlequin est restée fermée 3 semaines. Le préfet et la police disent que vous auriez pu rouvrir plus tôt. Et certains se demandent si vous n'avez pas eu peur. Je cite le contrôleur général de la police honoraire, Jean-Claude Borel-Garin, qui regrette qu'il n'y ait pas eu un travail conjoint entre la police nationale et municipale. Visiblement, vous n'avez pas voulu que la police municipale assure sa mission de tranquillité publique. C'est vrai ?
Non, là, c'est des polémiques totalement vides de sens, dans le sens où la crèche a été fermée, effectivement, il y a une
emprise. Trois semaines pour les parents, c'est énorme.
Non, les parents, ils avaient des solutions. On a trouvé des solutions dans d'autres gardes. Il y a eu un droit de retrait des agents, hein, et ils ont bien fait de faire ce droit de retrait. Et nous avons travaillé avec les forces de police et les agents pour voir dans quelles conditions nous réouvrions, et nous avons réouvert. Donc, la question, c'est que vous n'avez jamais vu une police municipale, elle n'est pas là pour chasser les dealers. Et donc, elle est là pour assurer la tranquillité publique. Nous coopérons, et les maires, comme nous le disons toujours avec France Urbaine et avec Gaël Perdriau, le maire LR de Saint-Etienne, nous coopérons à la sécurité, mais nous ne mélangeons pas ce qui relève du régalien, c'est-à-dire de la puissance de l'État, et ce qui relève des polices municipales, assurer la tranquillité publique. Il ne faut pas mélanger les choses, parce que sinon, si l'État se délite, continue de se déliter sur ses fonctions majeures, on voit l'état de la police, on voit l'état de l'éducation, on voit l'état de la justice, alors l'État n'est plus stratège, ce qu'il montre aussi par ce projet de loi sur le climat.
À vous entendre, c'est la faute de la police nationale qui n'a pas reçu l'ordre de venir.
Sur la sécurité, manifestement, non, la police municipale, la police nationale, elle était là. Ils font leur boulot. Les policiers nationaux, ils font leur boulot au quotidien, ils sont là avec les moyens qu'on leur donne.
Vous êtes engagé vers une candidature à la présidentielle, vous ne cachez pas vos ambitions. Comment vous comptez rassembler la gauche? Parce que là encore, à Grenoble, vous aviez à cœur de construire un arc humaniste. Alors c'est très joliment dit, mais ça n'a pas marché.
Ah ben, ça a fonctionné, vous voyez, on a obtenu 47%.
Pas à la métropole, vous le savez très bien.
Avec un arc...
À la métropole, non. Ça n'a pas marché.
Il s'est passé ce qui a pu se passer à Lyon quand Gérard Collomb a fait alliance avec les LR. Il y a eu effectivement un front anti-écolo qui allait de toutes les droites, des LR à LREM et à une partie des socialistes. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. C'est que le mode de scrutin, vous savez que c'est pas les électeurs qui choisissent dans les métropoles. C'est un électorat de deuxième niveau avec les conseillers. Et puis c'est comme ça, c'est la vie démocratique.
Mais là aujourd'hui, vous faites un tour de France pour essayer de rallier à vous les autres forces de gauche.
Ben, c'est pas rallié à nous, c'est que nous devons travailler ensemble. Donc cet arc humaniste qui à Grenoble s'est matérialisé.
Non, je parle au niveau national, vos ambitions présidentielles.
Oui, de Mathieu Orphelin, il y avait à notre meeting de campagne jusqu'à Clémentine Autain et François Ruffin. Effectivement, un peu partout en France, c'est ça qui peut nous permettre d'avoir un projet fédérateur pour 2022. Mais la question du projet, en fait, c'est ça qui va nous fédérer. Un projet humaniste qui s'appuie sur la justice sociale, la justice environnementale, un nouveau rapport entre Paris et les territoires. On voit ce Paris complètement corseté où les décisions tombent comme ça du ciel sans qu'on ait pu en discuter avant. Il y a là trois axes majeurs qui nous permettront de proposer une attente dans les Françaises et les Français. Ils sortent de 30 ans d'impuissance face au climat et à l'inégalité sociale. Oui, mais c'est l'union pour l'union, ça n'a pas de sens. On a été union pour union en 2012, ça a généré de la déception.
Tout à fait. Donc,
l'important, c'est de se fédérer derrière un projet. C'est ce que nous avons fait à petite échelle à Grenoble. Mais ce qui est important, c'est toujours le fond. Qu'est-ce qu'on propose pour la vie quotidienne, pour le logement, la mobilité, l'alimentation, pour le climat, pour l'énergie? C'est ça qui donne du sens à l'action politique.
Merci.
Le reste, après, c'est des contingences.
Merci beaucoup, Éric Piolle, en direct.